Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui portera sur un sujet important, le déterminisme, mais c'est une rediffusion d'une émission que nous avions faite avec le professeur Henri Atlan. Elle date de 2013, mais comme vous allez le voir, certaines questions n'ont pas encore été définitivement résolues. Voilà, je vous laisse écouter, je vous souhaite bonne écoute, et puis à la semaine prochaine. Monsieur Henri Atlan, vous êtes professeur. Le thème de notre émission est « Sommes-nous déterminés ?». Vous êtes médecin, vous êtes biologiste, professeur émérite de biophysique aux universités de Paris 6 et de Jérusalem. Vous êtes directeur d'études en philosophie de la biologie à l'École des hautes études et sciences sociales, directeur du centre de recherche en biologie humaine à l'hôpital universitaire de Hadassah, Jérusalem. Vous avez été pendant 17 ans membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Vous avez beaucoup d'autres titres, la liste est longue. Vous avez été en particulier chercheur associé au centre de recherche de la NASA, ancien chef de service de biophysique à l'Hôtel Dieu. Je crois que je vais m'arrêter là, mais il y a encore beaucoup d'autres titres. Savant et philosophe, vous êtes l'un des pionniers des théories de la complexité et de l'auto-organisation. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, L'organisation biologique de la théorie de l'information, 1972. Entre le cristal et la fumée, Essai sur l'organisation du vivant, 1979. À tort et à raison, Intercritique de la science et du mythe, 1986. Tout, non, peut-être, Éducation et vérité, 1991. Le clonage humain, 1999. Les étincelles de hasard, deux tomes, 1999 et 2003. La fin du tout génétique, vers de nouveaux paradigmes en biologie, 2001. L'utérus artificiel, 2007. Des embryons et des hommes, collaboration avec M. Botbolbaum, 2007. Le monde s'est-il créé tout seul, en collaboration avec messieurs Xuantian et Prigogine, 2008. Vous venez de publier enfin Le vivant post-génomique, ou Qu'est-ce que l'auto-organisation, dont nous parlerons en dernière partie d'émission. Vos livres sont traduits en de nombreuses langues. Vous donnez des conférences et des interviews radiophoniques, comme celui que nous faisons actuellement, et je vous en remercie encore. Imaginez que la connaissance du génome nous donnerait la connaissance de la nature humaine. Ça, c'était sur la revue très connue Science en 1980. La connaissance du génome permettrait de guérir toutes les maladies, même les maladies sociales, et grâce à la thérapie génique, on pourrait tout guérir. Ça, c'était signé de Daniel Koshland, rédacteur en chef de Science. Ces phrases sont tirées d'une conférence que vous avez faite, et donc j'ai repris. Le temps est passé, et aujourd'hui, dans l'ère post-génomique, comme vous le dites si bien, nous sommes dans cette ère post-génomique. Alors, voulez-vous nous expliquer le cheminement de ces connaissances du point de départ où on disait tout génétique jusqu'à aujourd'hui?
Eh bien, oui, avec plaisir. Donc, tout ça est parti des grandes découvertes de la biologie moléculaire des années 60, qui ont constitué une véritable révolution dans l'histoire de la biologie, puisqu'on a découvert pour la première fois des mécanismes physiques précis qui expliquaient ce qui avait été considéré pendant des siècles, sinon des millénaires, comme les mystères de la vie, c'est-à-dire la structure des gènes, la façon dont les gènes pouvaient contrôler éventuellement les caractères génétiques. Tout cela était parfaitement inconnu, et puis donc la découverte de la structure des ADN a permis de savoir de quoi étaient faits ces fameux gènes. La découverte des mécanismes de la synthèse des protéines aussi ont permis de savoir comment ces gènes fonctionnaient. Et à partir de ces découvertes qui étaient évidemment tout à fait révolutionnaires, aussi une découverte tout à fait bouleversante, l'identité du code génétique dans tous les organismes vivants connus, à travers toute leur diversité, il existe une correspondance entre la structure des ADN des gènes d'un côté, la structure des protéines de l'autre. Cette correspondance est la même partout, donc c'est ce qu'on appelle le fameux code génétique. À partir de cela, s'est imposé de plus en plus l'idée que finalement on avait tout compris. On avait tout compris de la biologie et qu'il suffisait de connaître la structure des gènes d'un organisme pour savoir exactement de quoi était fait cet organisme, comment il fonctionnait, comment il allait se développer, etc. Y compris évidemment l'organisme humain. Et à cette époque-là, nous n'étions pas beaucoup qui pensions que ces découvertes évidemment étaient tout à fait fondamentales et même bouleversantes d'une certaine façon, mais que ça n'était pas la fin, c'était au contraire le commencement d'une nouvelle aventure, et où il s'agissait justement d'entrer dans les détails de tous ces mécanismes-là. Et en particulier, nous avions contesté la notion qui avait été présentée assez rapidement et qui s'est diffusée très 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 vite aussi à cause de son caractère évocateur, la notion de programme génétique, c'est-à-dire l'idée que la structure des organismes et leur développement et leur fonctionnement, tout ça était le résultat de l'exécution d'un programme, comme un programme d'ordinateur, qui serait écrit, ce programme, dans la structure des gènes. Nous pensions, un certain nombre d'entre nous, que c'était une métaphore intéressante, mais qu'on ne devait pas la prendre littéralement. Parce qu'en effet, quand on analyse la structure d'ADN, on voit mal une structure de programme d'ordinateur. On voit en effet de l'information, mais il ne faut pas confondre. C'est-à-dire il ne faut pas confondre code génétique, par exemple, donc qui est une correspondance d'informations portées par les gènes avec l'information portée avec les protéines, avec programme. Parce que le programme, c'est quelque chose de dynamique, tandis que le code, c'est une correspondance statique, puis c'est tout. Et donc, nous nous sommes intéressés à d'autres mécanismes qui étaient nécessaires pour compléter, en quelque sorte, ces premières découvertes. Les autres mécanismes, c'était l'idée de comprendre de quelle façon une organisation relativement simple pouvait se complexifier et donner lieu à ce qu'on appelait une auto-organisation. Alors il a fallu quand même quelques dizaines d'années pour que, en exploitant au maximum justement toutes les possibilités qui étaient ouvertes par les découvertes de la génétique, on s'est aperçu que tout n'était pas contenu dans les gènes, et que cette prédiction que vous avez citée de Daniel Koshland dans les années 80, qui lançait à ce moment le grand programme de séquençage du génome, où il s'agissait d'analyser justement la structure de tous les gènes d'un organisme humain, et puis aussi d'autres organismes, animaux et végétaux, etc. Alors, cette prédiction-là, suivant laquelle, grâce à cela, nous aurons tout compris, et que nous aurons comme le listing d'un ordinateur, qui permet de fabriquer un être humain, en quelque sorte, en réalité, ça s'est révélé tout à fait faux. Au contraire, l'analyse des génomes a montré un certain nombre de nouvelles questions qui se posaient et a ramené sur le devant de la scène des notions qui avaient été soit complètement oubliées et écartées, comme la notion d'épigénétique, c'est-à-dire qui s'ajoute à la génétique, ou les notions d'auto-organisation, en effet, maintenant, qui sont redevenues importantes en biologie.
Alors, à l'époque, on disait, je vous l'ai entendu dire, on disait, le gène contrôle la structure de la protéine, et la protéine contrôle
les caractères. Donc si on connaît le gène, on connaît tous les caractères.
Oui, c'était ce qu'on avait appelé, de façon d'ailleurs métaphorique au début, mais après qui a été pris littéralement, le dogme de la biologie moléculaire. C'est-à-dire que consistait à dire qu'il y a une transmission d'informations linéaire depuis le gène jusqu'au caractère par l'intermédiaire des protéines. Donc, très très vite, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que cela, tout simplement parce que plusieurs gènes contribuent à la synthèse de plusieurs protéines. Autrement dit, un même gène peut participer à la synthèse de plusieurs protéines, et réciproquement, une même protéine va être déterminée dans sa structure par des éléments qui proviennent de plusieurs gènes. Bon, et puis maintenant, alors en plus, on s'est aperçu que une même protéine pouvait avoir différentes fonctions, suivant la façon qu'elle a de se replier en trois dimensions dans l'espace. Et cette façon de se replier, elle, n'est pas totalement déterminée justement par le gène.
Alors ce dogme, puisque vous avez employé le mot, ce dogme finalement fermait la porte à des découvertes que nous avons faites après. Théoriquement parlant, on ne pouvait pas faire certaines choses, c'est ce que je vous ai entendu dire, et notamment par exemple le clonage de Dolly.
Voilà. Oui, alors bon, on ne peut pas dire vraiment que ça fermait la porte. La preuve est que ces découvertes ont été faites, et qu'elles ont été faites grâce aux découvertes de la biologie moléculaire.
Ah bon.
Comme ça arrive très souvent, si vous voulez, c'est en exploitant des découvertes passées qu'on découvre évidemment des nouvelles choses, et c'est ce qui s'est passé. Mais il est exact que, en effet, la théorie qui a dominé donc pendant quelques dizaines d'années excluait la possibilité du clonage reproductif de mammifères. Pourquoi ? Parce que cette théorie était dominée par cette idée du programme génétique, c'est-à-dire que le développement d'un organisme à partir de l'œuf fécondé jusqu'à l'organisme adulte, eh bien, était censé être l'exécution d'un programme écrit dans la structure des gènes. Bon. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il devenait théoriquement impossible d'imaginer qu'une cellule adulte, donc qui a déjà exécuté le programme, puisse repartir à zéro et recommencer à nouveau un nouveau développement. Or, c'est exactement ce qui se passe avec le clonage reproductif, où on prend le noyau d'une cellule adulte, c'est-à-dire donc le noyau qui contient les gènes de l'organisme, mais dans l'état où il se trouve lorsque l'organisme est déjà différencié et adulte. Ce noyau-là, on le place dans un ovule d'où on a expulsé le noyau, et voilà que ces gènes-là, eh bien, au lieu de se comporter comme les gènes de la cellule adulte, se comportent comme si c'était un œuf fécondé nouveau et que ça repart. Donc ceci montre bien que les gènes tout seuls ne sont pas ceux qui déterminent le développement. Évidemment, ils sont indispensables, mais ils ne sont pas tout seuls. Et à côté des gènes, il faut tenir compte du cytoplasme, c'est-à-dire de là où se trouvent tout un tas d'autres molécules, parmi lesquelles les protéines, mais pas seulement les protéines. Il y a même parfois, très souvent d'ailleurs, des petites molécules très banales, comme du chlorure de sodium, du calcium, qui jouent un rôle tout à fait important dans les interactions des protéines entre elles et des protéines surtout avec les ADN.
Le cytoplasme, pourtant, à une période, on le considérait comme un élément assez neutre,
négligeable, non ? Négligeable, bien sûr, mais c'est tout à fait faux. Donc, en réalité, on sait que ça n'est pas comme ça, et que il y a visiblement quelque chose qu'on peut considérer comme un programme de développement, puisqu'en effet, à partir d'un œuf de souris, on aura toujours qu'une souris. À partir d'un œuf humain, on aura toujours qu'un être humain, etc. Mais ce programme de développement, eh bien, il faut le considérer d'une part comme distribué dans l'ensemble de la cellule initiale et pas seulement dans ses gènes. Et même plus que cela, c'est-à-dire ce programme de développement, en réalité, c'est un programme qui se construit au fur et à mesure du développement. Et c'est ça la notion même d'épigénétique qu'on commence à comprendre maintenant un peu mieux.
Alors, vous aviez donné aussi lors de d'une de vos conférences un autre exemple, c'est la découverte du prion, qui lui aussi était un peu comme pour Dolly, c'est quelque chose d'impensable quand on était au dogme du tout génétique.
Oui, ça d'ailleurs c'est un petit peu étonnant parce que ça n'était pas aussi impensable que cela, mais c'est vrai que l'idée qu'un agent infectieux, puisque finalement il s'agissait d'un agent qui transmettait une maladie infectieuse, la maladie de la vache folle ou de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. Et alors, donc l'idée qu'un agent infectieux qui se transmet, qui se multiplie et produit une maladie puisse être ni une bactérie ni un virus, ben, c'était quelque chose qui était difficilement concevable. Oui. Et puis Stanley Prusiner, un de ceux qui étudiait, est arrivé, après avoir vainement cherché un virus pendant plus d'une dizaine d'années et ne l'avoir jamais trouvé, est arrivé à la conclusion que ben, c'était une protéine toute seule. Mmh. Et que, mais que cette protéine toute seule, eh bien, elle pouvait avoir plusieurs formes, justement, et une forme pathologique produisant la maladie, comment est-ce qu'elle est transmise ? En effet, puisqu'elle ne se reproduit pas, c'était ça l'idée, c'est-à-dire puisque dans les organismes vivants, la molécule qui se réplique, qui se reproduit, c'est l'ADN ou l'ARN. Donc, s'il n'y a ni ADN ni ARN, on ne voyait pas comment ça se reproduisait. Et il avait proposé un mécanisme qui, lui, alors n'était pas du tout révolutionnaire, qui était un mécanisme d'autocatalyse chimique, c'est-à-dire que bon, une protéine qui avait une mauvaise forme, si elle se trouvait au milieu des autres qui avaient la bonne forme, eh bien, elle catalysait la transformation mauvaise. Mm-hmm. Quoi. Voilà. Et c'est cette idée-là qui a eu beaucoup de mal à être acceptée. Et Prusiner a eu à juste titre le prix Nobel pour cela. Je suppose que s'il n'y avait pas eu l'épidémie de la vache folle, il attendrait encore son prix Nobel.
Bon, alors... de ce que j'ai compris, et puis vous me corrigerez si vous le voulez, on ne dit plus vraiment maintenant nous sommes déterminés par la génétique, mais on devrait dire nous sommes déterminés par la biologie, finalement, qui contient la génétique, mais aussi autre chose.
Eh bien oui, c'est ce que j'ai essayé de dire là jusqu'à présent. En effet, pendant quelques dizaines d'années, à partir du moment où on pensait que tout était déjà écrit dans les gènes, alors en effet, et que le cytoplasme jouait un rôle un petit peu accessoire, alors en effet, il y avait cette idée que nous sommes déterminés par les gènes et seulement par les gènes. Alors à cela, on associait évidemment les déterminismes de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement social, l'environnement physique, c'est-à-dire le climat, la nourriture, etc. Mais d'un point de vue biologique, on considérait que c'était les gènes qui déterminaient tout. Bon, évidemment, maintenant, on sait que les gènes tout seuls, eh bien, sont eux-mêmes contrôlés par l'organisme. Ils contrôlent l'organisme et l'organisme les contrôle. Et donc, il vaut mieux parler de déterminisme biologique en général plutôt que seulement génétique. Autrement dit, entre les gènes et l'environnement, eh bien, il y a le reste de l'organisme.
Alors, je voudrais qu'on examine un deuxième pan de ce déterminisme. Alors, je dirais que c'est un déterminisme social, mais un déterminisme social qui est la conséquence des connaissances et de la technologie scientifique. Je veux parler donc de la fécondation et en particulier quelque chose qui arrivera, vous nous disiez, dans 50 ou 100 ans, c'est l'utérus artificiel. Alors, qu'est-ce que l'utérus artificiel ?
Ah ben attendez, avant de parler de l'utérus artificiel, d'ailleurs, il vaut mieux d'abord reprendre votre question sur les déterminismes sociaux. Parce que les déterminismes sociaux n'ont pas attendu les découvertes scientifiques pour exister. C'est-à-dire que dès que des hommes ont vécu en société, eh bien, évidemment, ils se sont déterminés l'un l'autre. Quand nous parlons de déterminisme, il y a certes les déterminismes biologiques, mais il y a les autres. Il y a les déterminismes sociaux, les déterminismes psychologiques éventuellement, qui sont d'ailleurs intriqués entre les deux. Et donc, ça a toujours existé. Alors maintenant, en effet, vous faites allusion au fait que les découvertes scientifiques ont changé nos conditions de vie. Autrement dit, nos sociétés ont changé aussi à cause, en partie, mais pas seulement, de leurs histoires et en effet du développement des techniques. Et de ce fait, la vie en société a changé, donc les déterminismes sociaux, les déterminismes culturels aussi ont changé. Parmi ceux-ci, faites allusion maintenant aux techniques de reproduction, donc de procréation médicalement assistée. Mais ce ne sont pas les seuls. En fait, je pense que les déterminismes sociaux actuellement sont beaucoup plus forts quand on les regarde du côté de l'informatique, par exemple.
Oui, par exemple.
Que quand on les regarde, au niveau des procréations médicalement assistées, ne serait-ce que parce que les communications bien atteignent tout le monde, tandis que les procréations médicalement assistées, c'est quand même une minorité d'individus, hommes et femmes, qui y ont recours pour quelque raison que ce soit. Donc, par conséquent, les déterminismes sociaux, encore une fois, ne se limitent pas et de loin à déterminismes biologiques influencé par
la société. C'est vrai, et vous avez raison de citer la communication, parce qu'effectivement aujourd'hui on est dans une ère de communication avec des moyens qui évoluent tous les jours
et qui nous déterminent de façon beaucoup plus forte que les déterminismes biologiques finalement.
Et plus forte, écoutez, je ne sais pas, parce que je vous ai entendu donc parler de l'utérus artificiel et puis
qui n'existe pas
aujourd'hui, bien sûr, mais bon, qui existera, avez-vous vous dites, dans 50 ou 100 ans.
J'ai dit 50 ou 100 ans précisément pour ne pas prendre de risques, parce que comme je ne serai pas là pour voir si ça, si ça se réalise ou pas, donc vraiment on ne prend pas beaucoup de risques en prédisant quelque chose dans 50 ou 100 ans. Et en fait, ce travail sur l'utérus artificiel était même pas de la prédiction, c'était un travail surtout comme ce qu'on peut appeler une expérience de pensée ou une scientific fiction, comme disent les Anglais. C'est-à-dire c'est une façon d'imaginer, de projeter un peu plus loin que l'état actuel de la réalité, en imaginant une situation, mais dans le but, pas du tout de faire de la prédiction, mais dans le but d'éclairer de façon peut-être un peu plus crue une réalité qui existe déjà. Et l'utérus artificiel, l'hypothèse, si vous voulez, l'utérus artificiel, permet, je crois, de donner un éclairage beaucoup plus fort sur des pratiques qui existent déjà de procréation médicalement assistée.
Bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas simplement, ça n'est pas simplement une pensée, puisque vous avez parlé de deux équipes dans le monde, dont particulièrement une à New York, qui avait fait des travaux et qui est arrivée à certains résultats.
Oui, mais des résultats ultra préliminaires. C'est-à-dire tout ça pour montrer qu'en effet, qu'il n'y a pas d'impossibilité ni logique, ni même à la limite technique, mais qu'il y a d'énormes difficultés techniques, que très probablement ces difficultés seront surmontées, à la condition que d'abord un certain nombre d'équipes s'y consacrent. Et on est très très loin d'être dans cette situation-là. Actuellement, très très peu travaillent sur ce projet-là.
Ben moi, ça m'avait quand même beaucoup travaillé quand je vous ai entendu, parce que il m'a semblé que si un jour ça arrivait, ça allait quand même assez profondément modifier la société, parce que on ne saura plus, enfin au niveau de la famille, les choses vont être complètement différentes. On ne saura plus qui est la mère, on ne saura plus qui est le père. Et puis une chose m'a drôlement interpellé, à savoir la chose suivante. Il fut un temps où, lorsqu'il y avait un mariage entre un homme et une femme, eh bien, ce mariage religieux, on va dire, ne pouvait pas être défait. Et puis, par exemple, je crois même encore que dans l'Église catholique, divorce est très...
Seulement dans l'Église catholique.
Oui. Dans la religion juive, maintenant, on fait des divorces, bien sûr.
Pas seulement maintenant, toujours.
Ça a été difficile.
Pas du tout. Le divorce pour la tradition juive orthodoxe a toujours été parfaitement admis. Évidemment, c'était une procédure. Un travail par le tribunal, avec une inégalité d'ailleurs entre l'homme et la femme. Mais l'homme avait la possibilité très facilement de divorcer.
C'est vrai. On divorce, c'est admis, c'est reconnu, quand ça va pas, on divorce.
Pas par l'Église catholique.
Pas par l'Église catholique, oui, je le disais. Bon, ensuite, est-ce qu'un jour, si on arrivait à avoir des enfants par un utérus artificiel, est-ce qu'on ne pourrait pas en arriver à dire aussi ces enfants, ce n'est plus ma chair et mon sang, comme on dit souvent, c'est issu d'une machine, et puis finalement, comme pour le mariage, ça ne va pas, donc je vais divorcer avec mes enfants.
Alors, tout ce que vous imaginez là, comme conséquence de cette hypothétique futur utérus artificiel, presque tout ce que vous imaginez là, bon, quelques petites exceptions, existe déjà aujourd'hui. Les structures familiales, elles ont éclaté aujourd'hui. Et les familles recomposées montrent bien que le schéma classique un père, une mère et des enfants a éclaté. Les enfants ont plusieurs pères, plusieurs mères. Alors, la notion même de la possibilité de séparer les deux fonctions maternelles qui ont, depuis les temps immémoriaux, étaient toujours réunies en une seule femme, c'est-à-dire la fonction ovarienne et la fonction utérine, c'est-à-dire le fait de donner un ovule et le fait de porter après le bébé dans l'utérus, ces deux fonctions-là maintenant sont séparées, enfin elles peuvent être séparées par la technique, de telle sorte qu'un bébé peut naître à partir de l'ovule d'une femme en étant porté dans l'utérus d'une autre femme. Autrement dit, ceci existe déjà maintenant. Cette possibilité-là, qui est celle des mères porteuses ou de ce qu'on appelle aujourd'hui les gestations pour autrui, eh bien, pose exactement le même genre de problème que vous soulevez maintenant à propos de l'utérus artificiel. Et même, on peut aller plus loin en disant que, d'une certaine façon, l'utérus artificiel peut-être poserait moins de problèmes que la gestation pour autrui. Moins de problèmes, puisqu'on n'aurait affaire qu'à une seule mère.
Oui.
Celle qui a donné l'ovule. Et il n'y aurait pas une deuxième femme qui l'aurait porté dans l'utérus avec tous les problèmes que ça pose actuellement. Bon, donc d'une certaine façon, vous voyez, l'utérus artificiel, ce ne serait pas le monstre nécessairement, mais ça pourrait éventuellement faciliter la vie d'un certain nombre de personnes. Quant à la question que vous avez posée au début, en disant on ne saurait plus qui est le père et qui est la mère, ça c'est tout à fait inexact. Il n'y a aucune raison de ne pas savoir qui est le père et qui est la mère. À partir du moment où on fait une fécondation in vitro, on sait qui a donné le spermatozoïde, on sait qui a donné l'ovule, et simplement, au lieu de transférer l'œuf fécondé dans l'utérus d'une femme, éventuellement celle qui a donné l'ovule ou une autre, on le met dans une couveuse. Bon, eh bien, après, ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus qui est le père ou qui est la mère.
Oui, non, ce que je voulais dire, ce n'est pas qui est le père biologique ou qui est la mère biologique, ça, c'est vrai. Mais est-ce que le père ou la mère serait celui, le père biologique ? Est-ce que ce serait celui qui a
Mais c'est déjà élevé... Mais tous ces problèmes-là existent déjà maintenant. L'insémination artificielle implique que le père biologique qui a donné le spermatozoïde n'est pas nécessairement le père qui va élever l'enfant. Les fécondations in vitro avec transfert dans l'utérus d'une autre femme implique que la mère biologique n'est pas nécessairement celle... Enfin, la mère qui a donné l'ovule n'est pas nécessairement celle qui va le porter dans son utérus, et celle qui va l'élever peut être une troisième. Par conséquent, cette dissociation que vous imaginez à propos de l'utérus artificiel, elle existe déjà aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en disant que le but de cet ouvrage, c'était pas de faire de la prédiction ou même de la science-fiction, mais c'était de faire une speculative fiction, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de prendre une idée ou une hypothèse qui est très frappante, en effet, comme celle du l'utérus artificiel, et à partir de là, d'éclairer de façon plus forte une situation qui existe déjà, mais à laquelle nous sommes habitués. Alors qu'évidemment, l'utérus artificiel fait pousser des hauts cris, alors qu'en réalité, quand on essaye d'analyser les conséquences, on s'aperçoit que nous y sommes déjà.
Le temps passe trop vite. Je vous remercie, monsieur Henri Atlan, et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.